Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lorsqu'elle apprend que son petit ami la trompe, une jeune japonaise décide de se venger. Elle saisit tous les produits Apple qu'il possède et ils sont nombreux, un iPad, un iMac, deux iPhones et deux MacBook. Puis elle les jette tous dans une baignoire remplie d'eau bouillante et savonneuse. L'histoire est tweetée par un jeune geek tout aussi japonais qui dit la tenir de la dite jeune femme. Elle sera retweetée 26 440 fois. Elle est tout aussi invérifiable que la photo qui l'accompagne et montre la baignoire fatale comme une signature. Elle en dit long cependant sur les relations contemporaines entre genre et technologie. Elle donne, comme souvent, la vengeance comme un élément de l'hystérie féminine et les objets connectés comme une extension de l'homme, de sa virilité ou de son intimité, son bien le plus précieux en tout cas. C'est la version ultra moderne de la vengeance de Lorena Bobbitt qui en 1989 coupa le sexe de son mari infidèle avec un couteau de cuisine, puis prit sa voiture, l'organe en main et s'en alla le jeter par la fenêtre dans un champ. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, on parcourt le spectre de la vengeance, de l'anecdote à l'action politique. Ça commence par un zap d'Act Up, ces actions éclairs menées par les militants qui mettent en scène une colère politique et représentent, de manière provocante et parfois violente, une injustice et la violence qu'elle sous-tend. Le film 120 battements par minute en racontait plusieurs épisodes avec beaucoup de finesse, peut-être vous vous en souvenez. Tout comme la vengeance domestique, ces actions politiques mettent en scène des corps offensés, humiliés, meurtris et donnent à voir un peu de la souffrance qu'ils ont subie, mais elles ne procurent pas forcément de plaisir. Deux histoires tout de suite racontées par Stéphanie Thomas et liées par le sentiment profond d'humiliation.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Nous sommes le mercredi 14 décembre 1994. 15 jours après le 1er décembre, la grande manif contre le sida. Et nous nous réunissons, donc moi je rejoins mes copains, mes copines d'Act Up, au local, en fait, une fin d'après-midi. On sait qu'on va participer à une action d'Act Up, on ne sait pas encore tout à fait laquelle. Et là, comme d'habitude, quand on prépare une action, la responsable de l'action publique nous brief. J'ai commencé à militer à Act Up Paris en 1990 et je suis séropositif depuis 1985. Alors décembre 1994, c'est un moment particulier de très forte mobilisation. Et nous, à Act Up, ça veut dire que 200 personnes viennent quasiment tous les mardis assister à notre réunion. On se dispute, on avance, parce que l'idée c'est quand même d'avancer sur des urgences, d'avancer sur des points particuliers. Ça peut être le 100%, la prise en charge à 100% pour les séropos, ça peut être sur des problèmes de logement, ou ça peut être sur des problèmes d'assurance, par exemple. Puisqu'on est effectivement dans une période où les séropositifs sont quasiment dans l'incapacité de s'assurer. Et l'idée à Act Up, comme je vous disais, c'est quand même de faire des actions. Donc, plutôt que de se dire, on va étudier ça, on va faire des longs rapports, on va envoyer des courriers aux assureurs, on va envoyer des courriers au ministère de la Santé, on va envoyer des courriers au ministère de la Justice, etc., pour dire, voilà, il y a des problèmes, etc. Le mieux, c'est que, encore une fois, parce qu'on est dans un timing, une espérance de vie qui est quand même raccourcie, donc il ne faut pas qu'on perde de temps. Donc, l'idée, c'est qu'à Act Up, on fait une action. On y va. Donc une fois qu'on a été briefé, nous prenons le métro, nous sommes vingtaine, et donc on se retrouve porte-maillot pour assister, pour participer, enfin pour zapper finalement le congrès, le cocktail des assureurs. Un ZAP, c'est une action éclair, mais avec, voilà, avec chaque fois sur une problématique très précise. Nous savions que par rapport aux assureurs, il fallait frapper un grand coup. Et que, bien sûr, bon, bah, les ZAP, on était habitué à en faire. Act Up, voilà, il y en avait vraiment plusieurs par semaine. Qu'on avait des techniques, on savait ce qu'on allait dire. Il y avait une personne qui était chargée d'interpeller les responsables des assureurs. Mais on se disait, mais comment on va pouvoir faire pour que cette action ait un maximum d'impact à la fois sur les gens qu'on visait, mais aussi médiatiquement et quand on la racontera, etc. Et l'idée qu'avait eue l'action publique, c'était de jeter sur le buffet les cendres de malades, de personnes malades du sida, mortes de sida. C'était vraiment des cendres d'amis disparus. Des cendres, notamment, bon, bah, il se trouve que quelques semaines avant cette action, le président d'Act Up, Klaus Vellet, était décédé et qu'il avait dit expressément qu'on pourrait utiliser ces cendres pour des actions. Donc ce jour-là, c'est vrai que c'est à la fois une action. Moi, je pense, je sais que ça va être quelque chose d'assez fort et en même temps émouvant, spectaculaire et émouvant, parce que forcément, enfin, nous savons que ce geste est avant tout politique, c'est aussi quand même un geste transgressif quelque part. Bon, donc ça, c'est sûr qu'on ne part pas comme ça la fleur au fusil pour ce genre d'action. Tout est repéré. Il y a parfois même des plans, bah on se demande comment on va pouvoir entrer, par quels moyens, etc. Alors, 94, voilà, les bâtiments sont plutôt, c'est plutôt facile d'accès. En plus, bon, le palais des congrès, c'est quand même très très grand. Donc on pénètre dans cette salle et immédiatement, on voit le centre de cette pièce. Alors, ce qui, moi, m'a frappé d'emblée, c'est l'immensité. Enfin, je me dis, oh là là, mais on est dans un truc gigantesque. Ça va être compliqué. Il y avait des centaines. Moi, je pense que je vois des centaines de personnes. Enfin, les personnes qu'on avait en face de nous, pour moi, c'est, enfin, j'allais pas des zombies, mais je veux dire, moi, j'avais 35 ans, ils avaient tous à peu près 50 ans, donc ils paraissaient très vieux, ils étaient tous blancs, ils étaient tous en costume, ils étaient tous avec une cravate, il y avait très peu de femmes, il y avait, voilà. Donc, c'est vrai que ça paraissait, on avait l'impression d'entrer dans un univers, dans un monde qui nous était totalement inconnu. Ça avait un côté totalement exotique et en même temps quand même assez intimidant. Donc c'est vrai que l'effet, le choc est un peu majeur entre et nous, quoi. En fait, on voit bien que voilà, il se passe quelque chose parce que on n'est pas du tout du même monde, quoi. Donc l'idée, c'était de s'approcher. On s'approche du centre de la pièce, où il y avait une espèce d'immense table ronde sur laquelle il y avait un buffet, il y avait des verres, il y avait des petits fours, etc. On sort nos sifflets, on commence à siffler, et ce qui était prévu, donc, c'est que j'annonce un peu à la cantonade que voilà, que les personnes présentes allaient assister à une action d'Act Up Paris. Donc je crie, vous allez assister à une action d'Act Up Paris. Et là, l'action se met en marche, si je puis dire. Certains distribuent des tracts, d'autres vont effectivement continuer à siffler, d'autres vont commencer à crier des slogans contre les assureurs. Et puis, toujours au milieu de cette immense salle et sur ces petits fours, certains militants vont sortir de leur sac des urnes et vont commencer à jeter, à disperser des cendres sur les petits fours. Étrangement, c'est difficile de voir si vraiment l'impact. Enfin, sur place, on a quand même l'impression que il y a une forme d'indifférence de la part des assureurs, en fait. Beaucoup nous tournent le dos, d'autres rigolent un petit peu, comprenant pas très bien ce qui se passe peut-être, ou alors est-ce que c'était un rire un peu nerveux. Mais en tout cas, il y a une forme aussi de sans doute de mépris. Et puis les gens s'éloignent, et puis surtout, finalement, on se rend compte assez vite que ce centre qui nous avait paru un point stratégique pour cette action, c'est pas vraiment là où ça se passe, quoi, en fait. Les personnes sont un peu dispersées comme ça dans cet immense espace. Et le centre, bon ben certes, oui, il y a les petits fours, mais il y en avait sur d'autres tables aussi. Et finalement, tout le monde s'éparpille un petit peu, en fait. Donc voilà, le zap se déroule comme prévu, ce qui est toujours bien. Il n'y a pas particulièrement de problème. Tout ce qu'on a voulu faire, on l'a fait. Donc ça, c'est super. On était contents en partant parce que du coup, c'était quand même osé, quoi. On se disait, on espère qu'on a gâché leur cocktail quand même. On espère que pour certains d'entre eux, ils auront eu le petit four qui est passé de travers, parce que c'est quand même le but, c'est qu'on arrive un petit peu à toucher ces gens-là, quoi. Et bon, on ressort toujours dans un état, j'allais dire d'ébriété, mais presque d'un zap, en fait. On est complètement requinqué parce qu'on se dit... Ah, mince, on l'a fait, quoi. Et même si on pouvait se dire au départ, on va jamais y arriver, parce que là, quand même, tu te rends compte, ce truc est gigantesque. Comment on va faire pour nous faire entendre, etc. Et puis c'est intimidant, quoi. Forcément, c'est intimidant. On est 20, en face de nous, il y a des centaines de personnes dans ce lieu improbable, gigantesque, et on se dit, on l'a fait. Et ça, c'est effectivement une sensation. Vraiment jouissive, quoi, en fait, de réussite, même si après, est-ce que l'effet du zap a été ce qu'on voulait? Est-ce qu'il était réussi vraiment? Est-ce qu'on a touché les gens? Bon, tout ça, c'est des questions qu'on se pose plus tard. Mais pour, en tout cas pour nous, pour moi, à chaque fois, je sais que, j'avais l'impression presque que mes défenses immunitaires remontaient tout d'un coup à chaque fois qu'on faisait une action, en fait, parce que c'était le moyen qu'on avait trouvé pour effectivement avancer dans la vie alors qu'on nous disait partout que on était destiné à mourir, quoi, en fait. Moi, j'ai toujours dit que ACT UP, c'était le meilleur antirétroviral avant qu'il existe vraiment les médicaments puissants. Pour moi, je sais que c'est ACT UP qui m'a maintenu en vie, si je puis dire.
France Culture, les pieds sur terre.
Monsieur Villefort, comme voulez-vous encore? Vous venez de recevoir le coup qui vous abat. Il vous reste à apprendre qui vous l'a porté. Qui êtes-vous? Reconnaissez-moi.
Le comte de Monte Cristo.
Non. Regardez-moi mieux.
Je ne vois pas qui vous êtes.
Cherchez bien. Rappelez-vous, le soir de vos fiançailles, le soir des miennes aussi.
Une Hollandaise.
Justice est faite pour la troisième fois.
Alors, j'ai rencontré mon ex sur Adopte un mec. Quand on s'est rencontrés, on n'en s'est tout de suite plus. Tout se passait très bien, c'était une belle histoire. Et on a emménagé ensemble dans un appartement à Paris. Et à partir du moment où on a emménagé ensemble dans cet appartement où le bail était uniquement à son nom, en fait, ça a commencé à plus si bien se passer que ça. Mais moi, de mon côté, en fait, j'ai eu beaucoup de stages, donc j'étais pas forcément là en continu. Noël arrive, on va passer les vacances en famille chez moi, puis ça se passe très très mal. Devant ma famille, il a été assez odieux. Quand je suis arrivée en voiture du Havre, il m'a fait passer l'aspirateur direct dans sa voiture parce que mon chat était venu avec moi, il y avait des poils de chat, il m'a fait tout un cirque, voilà. Alors que moi, en fait, j'étais juste contente de le revoir après un long moment d'absence. Au repas de Noël, il a fait une réflexion comme quoi j'étais quand même assez mal élevée devant mes parents. Et je crois qu'il a fait une réflexion aussi comme quoi j'avais mauvaise haleine. À ce moment-là, on a commencé à pas mal se disputer. Je lui ai même proposé de rompre. Et il m'avait reprise dans les bras en me disant « mais non, non, non ». Et en fait, je pense qu'il m'avait reprise dans ses bras parce que, en fait, il se trouve que mon stage suivant était en Australie. Donc, je partais 2 mois et demi en Australie. Et on avait le projet de partir ensemble. Il venait me retrouver à la fin du stage. Donc, le stage en Australie arrive. En fait, c'est moi qui ai organisé tout le séjour en Australie. Tout ce qu'on a fait, il avait même pas regardé les guides. Enfin, je voyais qu'il était complètement à côté du voyage. Il n'était pas impliqué. Moi, j'étais assez vexée par moments. Par exemple, on allait sur une île au large de la Tasmanie. J'avais loué des vélos. On a passé une nuit dans un ancien pénitencier. Enfin, c'était vraiment idyllique. Mais en fait, en Tasmanie, il pleuvait. La balade en vélo, c'était une balade contre le vent, donc c'était pas facile. Et il a pas cessé de râler en me disant que c'était mal organisé, que je m'apercevais pas des choses, tout ça. Enfin bon. Et je me suis dit en rentrant que je pensais pas que ça s'améliore. Et en fait, ça a pas manqué. On est revenu en mai. Je repartais en stage en Bretagne. Le vendredi du dernier week-end, je reçois un SMS hyper gentil au début. Je me dis « Ah, chouette !» j'ai dû relire 4 fois le SMS pour comprendre que le SMS ne m'était pas destiné. C'était « Tu me manques trop, surtout occupe-toi bien de tes filles, or je n'ai pas d'enfant ». J'ai compris tout de suite, après la troisième lecture, qu'il me trompait. Je sais pas du tout depuis quand ça a duré, mais je pense que vu comment il était assez infect avec moi, je me dis que ça devait couver depuis un moment. Et en fait, j'ai reçu ce SMS quand il était dans le train pour venir me voir. Donc j'avais le choix soit de le laisser en plan à la gare de Quimper, soit d'aller le chercher pour qu'ils expliquent en fait. Quand je suis allée le chercher, j'arrêtais pas de pleurer quand je lui ai demandé de s'expliquer. Il me disait, mais en fait, je comptais pas te le dire. Je comptais te le dire quand tu serais en poste dans le sud. Parce que ce qui s'est passé aussi pendant le dernier stage en Bretagne, c'est que j'ai appris que j'ai été prise en poste à côté de Toulouse. Et en fait, on avait le projet de s'installer dans le sud ensemble. J'étais perdue. J'aurais jamais en fait pensé qu'il me ferait quelque chose comme ça. Parce que même si ça se passait plus bien entre nous, je tenais à lui. Et j'aurais jamais fait quelque chose qui pouvait lui faire du mal. Donc ça me semblait complètement invraisemblable qu'il m'en fasse. Lui, il était pas en larmes, il était très imperturbable. Il m'a sorti des banalités comme « je dois être un don Juan, j'aime plusieurs femmes en même temps ». Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a dû faire un effort pour moi, il n'était pas capable de le faire. Enfin, dès qu'il devait prendre un train, venir pour moi, il ne le faisait pas. En fait, petit à petit, la colère montait. Je suis partie en juillet chercher un appartement à côté de Toulouse. Et quand je suis revenue, il s'était arrangé pour me voir une journée. Et après, il partait en vacances. Et là, je me suis aperçue qu'il avait absolument pas l'intention ni de m'aider pour déménager, ni pour rien du tout. Et là, je me suis dit, ok, tu me prends vraiment pour une conne. On va voir. Je vais me venger. Je vais lui pourrir son appart. Et comme je le connaissais bien, je savais exactement où appuyer pour que ça lui fasse vraiment mal. Dès que je pensais à notre histoire, en fait, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais lui faire qui le touche ?» Quand j'étais en stage au Havre, il s'était permis de vendre certains de mes meubles. Alors méthodiquement, j'ai pris toutes les choses auxquelles il tenait et je savais qu'il remarquerait tout de suite que je l'avais pris. Donc, par exemple, je lui avais offert des très très belles gravures. Et je les ai reprises, parce que pour moi c'était un cadeau que j'avais fait à la personne que j'aimais et pas à quelqu'un qui pouvait m'écrabouiller sans vergogne. Il aimait beaucoup cuisiner et on cuisinait ensemble, donc j'ai pris ses casseroles préférées. Il était très maniaque, à chaque fois que je rentrais de stage, systématiquement, il me disait le dimanche, la première chose qu'il me disait c'était « Ah, Solène, aujourd'hui, faut qu'on fasse le ménage, quoi. » Sachant que j'étais pas là pendant la semaine, franchement, je le prenais assez mal de revenir et de me dire « Ah, il va falloir que je nettoie l'appartement, bon, c'est l'endroit où j'habite, mais pas là en ce moment. » Et donc, en plus, il me faisait culpabiliser sur le fait que j'étais pas assez ordonnée, pas assez maniaque sur certaines choses. Et donc là, je me suis dit « Ah, les crevettes dans la tringle à rideau, ce sera parfait. » Donc, je suis allée au Monoprix acheter un énorme pack de crevettes en déstockage que j'ai mis dans la tringle à rideau. J'avais plein de restes de crevettes et je me suis dit, c'est dommage de jeter tout ce potentiel. Mon ex était très attaché à ses plantes. Donc, j'ai préparé une petite décoction avec les écailles de crevettes que j'ai mis dans le vaporisateur à plantes. Et j'ai attendu quelques jours que tout cela macère gentiment. Ensuite, il s'habillait toujours pareil, en fait. Il avait une série de jeans et des t-shirts noirs. Mais il était assez complexé par son poids. Et en fait, je savais que ce qui le dérangerait, c'est d'être un petit peu à l'étroit. Que ses t-shirts le moulent, voilà. Et donc, j'ai passé toutes ses affaires préférées à la lessive à 90 degrés. Comme il m'avait fait beaucoup complexer sur ma féminité, mon poids, j'ai pris systématiquement tous ces t-shirts. Je les ai repliés bien soigneusement pour que à chaque fois qu'il en passe un, il sente cette petite sensation désagréable d'avoir grossi. Et ensuite, quand j'ai soigneusement tout replié, mouillé naturellement, j'ai vaporisé le jus de crevette à la fin comme petite touche finale. Et j'ai aussi pulvérisé du jus de crevette sur le matelas de notre chambre parce que je savais à partir du moment où je serais partie qu'elle arriverait. Je serais remplacée sans transition. Donc je me suis dit, voilà, c'était une sorte de cadeau. J'étais quand même triste en fermant la porte de l'appartement quand je suis partie. Mais après, ça m'a permis, quand je repensais au départ, quand même d'avoir le sourire, de me dire « Ah, je me suis pas laissée faire. » Ils pensaient qu'on pouvait tout me faire, mais non, en fait, on peut pas tout me faire. Sweet dreams are made of these, where am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on.
l'été, de la vengeance aux crevettes marinées. Un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Marie Placé avec un coup de main de François Connac. Merci à Philippe Mangeot, à Hugues Charbonneau et à la jeune amatrice de crevettes. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 septembre 2016. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire.
Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Put a fellow lion. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Yeah, everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Por un paro de dolor.